France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, bienvenue à l'humoriste Marc Jolivet qui, depuis 5 décennies, exerce son art dans les genres les plus divers, en paroles, en chansons, en images et même en politique où il porte à sa façon la cause écolo. Histoire d'un homme, histoire d'une famille aussi pour celui qui commença en duo avec son frère Pierre Jolivet et qui publie une autobiographie intitulée L'Artistocrate. À midi, place à la musique légère et à la valse viennoise. Mais sans plus attendre, bienvenue à Marc Jolivet.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons maintenant interpréter tous ensemble, si vous le voulez bien, un concerto d'applaudissements pour spectateurs heureux. Applaudissements. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Combien de fois on va le répéter, ça? Oh, d'accord. Je vais vous faire travailler séparément. Bien. Alors maintenant, je voudrais entendre uniquement, et attention, hein, j'ai bien dit uniquement, ceux qui vont voter écologiste au municipal. Pas gagné, mais c'est pas mal quand même, hein? C'est... Bien. Maintenant, je voudrais entendre les amoureux. Allez, les amoureux. Allez. Allez.
Bonjour Marc Jolivet.
Bonjour Benoît.
Concerto d'applaudissements, c'est le nom de ce sketch que vous avez joué avec le public au Musée Grévin en 1989. Vous êtes l'inventeur du concerto pour applaudissements.
Absolument, absolument. J'ai écrit, inventé, espéré tellement de choses bizarres que de me réécouter, je me dis, mais qui est ce garçon un peu allumé qui fait ça? Mais c'est toi, Marc.
Voilà, oui, allumé dans tous les genres, comme je le disais dans l'introduction, de la scène à la politique et de la parole à la chanson. Mais ça m'a quand même frappé, Marc Jolivet, en lisant votre livre « Mémoire d'un artistocrate », de Merci. Voir que la musique, elle est très très importante dans votre vie. Le nombre de chansons que vous avez faites, le nombre de chansons que vous recommandez aussi, même sans les avoir faites, le nombre d'aventures que vous avez eues avec la musique, c'est quand même quelque chose, on peut dire, de central dans ces presque 50 ans d'activité artistique.
Essentiel. Pourquoi ? Maman et ma grand-mère me racontaient que lorsque j'étais enfant, 4, 5 ans, dit « Marc, que veux-tu faire quand tu seras plus grand ?»« Je veux être chef d'orchestre. »
Ah, c'est ça.
C'était depuis l'enfance une volonté, un désir, un appétit qui a été freiné parce que je ne suis pas doué. Mais je suis doué pour rien, en gros. Mais je suis très têtu.
Vous expliquez d'ailleurs à un moment donné dans votre livre que vous avez essayé d'apprendre le piano, mais ça n'a pas été un grand succès. Hein.
C'était terrible. Alors, Serge Peratonnerre a composé pour moi une musique. Oui. Je la jouais. Alors, j'ai appris. Il y avait un prof qui est venu pendant plusieurs mois. Ça durait 1 ou 2 minutes. Et c'est la vérité. Je joue ce spectacle, j'ai un piano sur scène, je joue la mélodie et le sol se dérobe sous moi.
En vrai.
Le piano était trop lourd. Je vois le piano monter sur moi et je dis je vais mourir, c'est la fin de ma vie. Le piano tombe, je tombe dans le creux, il y a eu un creux, le théâtre s'effondrait. Et le trou était plus petit que le piano, ce qui fait que le piano ne m'a pas tué. Il s'est effondré, je suis tombé 2 mètres plus bas, silence dans la salle, je remonte et je fais, et voilà.
Donc votre histoire avec le piano est quand même un peu problématique, on va dire.
Et alors, cette mélodie, c'est Nicolas Hulot qui l'a récupérée quelques temps plus tard pour faire Ushuaïa. C'est la musique d'Ushuaïa.
Et puis vous, finalement, Marc Jolivet, vous avez accompli, on en reviendra tout à l'heure, mais votre vie de chef d'orchestre à travers un spectacle qui marche du tonnerre depuis des années et des années maintenant, un comique symphonique, vous êtes vraiment devenu chef d'orchestre.
Je vais être honnête, je vais vous raconter. J'ai 60 ans 58. Et je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse quelque chose que personne n'a jamais fait, d'une prétention absolue. Un clown avec un orchestre symphonique. Alors, je regarde, aux États-Unis, ils ne l'ont pas fait. Etc. Et j'écris, et je dis à Patricia Carrière, ma directrice de production, combien coûte un orchestre symphonique? Je vais faire un spectacle avec un orchestre symphonique. C'est exorbitant. Là-dessus, je dis d'accord, je vais faire Bobino avec un spectacle qui s'appellera L'Utopitre. J'en fais un roman et le thème de ce spectacle, c'est un clown qui, n'ayant pas les moyens d'avoir un orchestre symphonique, a quatre putes, quatre péripapéticiennes qui sont musiciennes et qui viennent jouer. 150e représentation. Au bar, je bois du vin bio avec mon public quand je peux le faire. Bonjour. Monsieur Jolivet, je m'appelle Philippe Fournier, je dirige l'Orchestre Symphonique Lyonnais, pourrions-nous écrire un spectacle ensemble? Je me dis, c'est une blague. Le lendemain, allô l'aspect dit dame, bien sûr, monsieur Philippe Fournier, et nous sommes partis avec Philippe Fournier pour plus de 200 représentations.
Vous dites, c'est une blague, parce que dans votre livre, on découvre aussi que vous êtes vraiment un spécialiste de la blague, des blagues parfois assez cruel, j'ose dire, comme quand, par exemple, une dame sort aux toilettes et vous dites à tout le public de sortir avant qu'elle revienne dans la salle.
Ah oui,
des
choses oui.
Comme ça, des forums, des sortes de caméras cachées, presque. Oui.
Dans les trains, j'adore aller au bar et dire « Permettez-vous de me donner le micro ?» Alors, au bar, je dis « Faut venir rapidement, parce que là, il reste presque plus rien. » Dans les 10 minutes... Tout le monde vient.
C'est très très bien. Merci en tout cas Marc Jolivet, voilà, pour ces mémoires d'un artistocrate dont on parle ce matin et dont on va parler, comme vous venez de nous l'expliquer, avec notamment le recours de l'orchestre symphonique.
Cher Minisup, mes remarquables qualités...
Il ne s'agit pas de vos qualités, mais de votre qualité. Votre qualité de ça. Oh, ce que ça doit être tarteur.
En vérité. Et pourquoi?
Personne ne vous prend au sérieux. Bien sûr, les vieilles dames qui ont bon cœur, qui vous font... Mais les autres, personne ne vous estime. Prenez La Fontaine, par exemple. Vous savez pourquoi Van ses fables?
Pour louer son génie, je présume.
Pas du tout. C'est parce qu'il aime pas les ça.
Et cette charmante voix qu'on vient d'entendre, Marc Jolivet, c'est votre mère, que beaucoup, je pense, d'auditeurs connaissent au moins par son nom et qu'ils ont vu dans des films notamment, qui s'appelait Arlette Thomas.
Ma maman.
Votre maman, dans un sketch, parce qu'elle était une reine du doublage aussi, il faut le dire. Hein,
oui.
Et là, ça s'appelle Minisup et Matouvu.
On reconnaît un peu Titi et Gros Minet,
voilà, c'est
dedans.
Ça. Et donc, elle avait cette virtuosité, entre autres, dans sa carrière, qui était importante, des voix.
Oui, absolument. Elle a eu, je dirais, une frustration parce qu'elle a été obligée de vendre le théâtre présent, comme on découvrira dans mes mémoires, oui. Les raisons. Et du coup, elle est devenue une vedette de la post-synchronisation. Elle a fait travailler ma sœur aussi, très bien. Les derniers temps, je lui ai dit « Maman, tu vas m'écrire un spectacle que je vais produire. Tu vas raconter ta vie sur scène. »
Voilà, c'est ça. Parce que je regardais quand même, elle a fait un nombre de films et de pièces de théâtre assez impressionnant quand même.
Oui, hein, oui, 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 oui.
Y compris avec des très grands. Enfin,
absolument, c'était... absolument.
Et pourtant, on sent dans votre livre que ça n'a pas été une vie facile, hein, notamment sur le plan, voilà, la carrière, l'argent, etc.
Ça a été très dur pour maman puisqu'elle a rencontré mon père, qui était un auteur d'art dramatique tout jeune, qui venait recevoir un prix des jeunes compagnies et qui n'a pas supporté qu'elle démarre une carrière. Voilà. D'actrice.
Voilà. Et donc, c'est terrible les pages d'ailleurs que vous racontez sur votre père Jacques Jolivet qui adorait la musique classique et qui vous y a en partie initié. C'est pour ça que j'ai choisi la 7e symphonie qu'il vous faisait écouter. Votre père en même temps était un homme sûr de son génie d'auteur, totalement inconnu et tyrannique, il faut dire, dans sa propre famille. Hein.
C'est absolument le mot qui convient. J'en ai parlé beaucoup avec lui, j'ai essayé de percer ses secrets. Je pense qu'en ne se faisant pas jouer, c'était tellement facile de dire « je suis un génie incompris,
oui, oui,
je n'ai plus qu'à me faire détester pour m'adorer moi-même ».
Quand même des admirateurs, comme Barjavel par exemple. Hein.
Absolument. Alors, ça a été très intéressant pour moi, car mon père m'a présenté Barjavel, j'ai travaillé avec Barjavel, ça n'a pas abouti, ouais. De voir comment Barjavel aimait mon père.
Oui, c'est ça.
Et de rappeler à mes deux frères, qui ont beaucoup plus souffert que moi de mon père, qu'il n'était pas que ce méchant homme.
Oui, c'est ça. Oui.
Il avait des qualités formidables.
Jacques Jolivet, qui était par ailleurs, alors ça c'est pour nos amis mélomanes, hein, le cousin de Denise Charlet, grande, évidemment, cantatrice française.
Absolument.
Hein, que vous avez connue, donc forcément.
Ah, que j'ai connue très très bien. Oui. J'ai eu mon premier flirt à 9-10 ans avec ma cousine. sont de belles histoires.
Voilà.
Et Denise Charlet m'a donné envie d'exploiter cet organe familial.
Voilà, que vous exploitez avec
avec grand plaisir, Benoît.
Voilà,
ça fait du bien.
C'est ce que je voulais dire. En tout cas, voilà, vous avez cette enfance de quelqu'un qui grandit vraiment dans le milieu du théâtre, dans le milieu des arts, mais en même temps dans les difficultés de ce milieu aussi. Hein, pas beaucoup d'argent, des petits appartements, des tournées pas toujours faciles, où vous rencontrez par exemple Bourvil, des gens merveilleux, mais souvent des tournées à 3 sous. Hein, c'est pas,
absolument.
C'était pas simple, hein.
Maman nous racontait régulièrement, en 1954, elle faisait les poubelles la nuit pour récupérer les bouteilles en verre et le lendemain, elle les redonnait pour récupérer la consigne, voilà, pour nous nourrir. Donc
hein.
Ça calmait quand on n'avait pas faim, elle nous rappelait l'histoire que je rappelle à ma fille aussi régulièrement.
Voilà, et c'était donc Arlette Thomas que je recommande à tous les auditeurs de redécouvrir à travers tout ce qu'elle a pu tourner notamment. Et puis, votre père, vous le disiez, était un amoureux de la musique classique. Il vous a fait découvrir des œuvres importantes pour vous, comme le concerto pour orchestre de Bartok, je crois.
Ah, hein. Ma première grande, ouais, émotion musicale, voilà. C'est ça, je dois avoir 9 ans, 10 ans. Moi, je venais le week-end, Pierre, lui, malheureusement, vivait avec mon père. Mais moi, qui venais irrégulièrement, à 9, 10 ans, c'était un peu compliqué, il disait maintenant, vous écoutez. Mais le concerto pour orchestre m'a marqué pour toujours.
Voilà. Et la musique, je le disais, est très très présente dans votre livre, puisque vous avez choisi aussi, au début de chaque chapitre, évoque une année de votre vie, donc on déroule, voilà, j'ose dire, vous m'en voudrez pas, presque 70 ans.
Hein. Mais j'ai 71 ans, c'est sans souci.
Et au début de chaque chapitre, vous indiquez une ou deux chansons qui vous ont marqué cette année-là. Il y a des morceaux classiques, ouais. Et puis il y a aussi forcément, là, puisqu'on est au début des années 60, un peu de twist avec par exemple Daniel Gérard.
Elle m'avait dit ce soir j'irai au Charivari. Si je m'ennuie là-bas j'irai au cinéma. D'accord, d'accord, je vais au Charivari. D'accord, d'accord, d'accord. J'arrive plein d'espoir, personne au Charivari. Je vais au cinéma mais elle n'y était pas. D'accord, d'accord, ne nous appelons pas. D'accord, d'accord, d'accord.
Où est-elle? Où est-elle? Où
quatre vents. C'est un club assez chic, allons, pas de panique, d'accord, d'accord. Je vais aux quatre vents, d'accord, d'accord, d'accord. J'arrive aux quatre vents, quelqu'un se met devant. C'est monsieur le portier qui m'interdit l'entrée, d'accord, d'accord. On en reparlera, d'accord, d'accord, d'accord. Où est-elle? Mais où est-elle? Mais où est-elle passée? Je rencontre un copain qui me dit t'as pas l'air bien. Tu as les traits tirés, toi tu devrais rentrer. D'accord, d'accord. Moi je rentre chez moi, d'accord, d'accord, d'accord. J'arrive et quelqu'un sonne, mais c'est le téléphone. Elle me dit j'en ai marre d'attendre Charlie Bar, d'accord, d'accord. Je retourne Charlie Bar, d'accord, d'accord, d'accord. Où est-elle? Mais où est-elle? Mais où est-elle passée?
Daniel Gérard en 1964, d'accord, d'accord. J'ai parlé beaucoup des talents très divers de Marc Jolivet. Là, on vient de découvrir dans le studio celui de danseur de twist également.
Oh yeah, 1964, Château Gaillard, Maison Alfort.
Alors justement, les copains. Justement, Château Gaillard, Maison Alfort, parce que Château Gaillard, ça existe, je crois, en Normandie. C'est un vrai château, mais il y a aussi un Château Gaillard dans la banlieue parisienne, qui est celui où vous avez grandi, qui est plutôt un ensemble d'immeubles.
En fait. Un ensemble d'immeubles, et comme on voit, les HLM au bord de la mare.
Voilà. Et c'est là, on peut dire, dans une cave de Château Gaillard, qu'est né, on peut dire, votre pratique, votre métier d'artiste avec votre frère Pierre Jolivet, que vous avez commencé à improviser, à imaginer, à rêver, à inventer toutes sortes de petits spectacles.
Absolument. Ouais,
Marc Jolivet.
Oui, oui. J'ai compris ce que j'ai encore aujourd'hui. J'ai une énergie débordante et donc c'est sorti tout naturellement. Et on faisait les spectacles. J'avais baptisé la cave l'abbaye de Thélème.
Voilà, c'est ça. La référence évidemment à Rabelais. Fais ce que voudra.
Fais ce que voudra. Et j'ai même appris, alors vous allez voir ce qui est triste, la guitare. Ouais. J'ai appris quelques accords de guitare et je serais incapable de faire ça aujourd'hui. La nuit, parfois, je me dis quel dommage. Si là-haut, il m'avait donné un tout petit peu plus.
Vous étiez l'aîné, il faut le dire. Donc c'est vous un peu l'initiateur qui avait lancé le mouvement dans la famille, suivi par votre petit frère, donc Pierre Jolivet.
Pierre, voilà. C'était au moment du Club Med. C'est-à-dire, moi, j'ai été refusé au conservatoire. Et je suis parti au Club Méditerranée.
Ouais, qui est très important dans votre livre.
Hein. Très.
Voilà, qui a été une expérience formidable.
Absolument formidable. Ah, ouais. Le théâtre, le conservatoire, c'était un peu la famille, quoi, ce qu'on voulait. J'étais pas doué pour ça. Le Club Med m'a ouvert sur le monde complètement.
Ouais.
Et j'ai dit à mon frère, arrête tes études, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit arrête, mes parents m'en ont voulu, car Pierre n'a pas passé son bac. Il m'a dit, ouais Marc, t'as raison, j'arrive. Et il est venu me rejoindre au Club Med, c'était à Sant'Ambrogio avec Michel Torrent. Et là, on a démarré des années exceptionnelles.
À faire beaucoup de spectacles donc, hein,
énormément
toutes sortes de choses.
C'était, Benoît, rendez-vous compte qu'à cette époque, 72, je pouvais appeler Gilbert Trigano.
C'est ça, vous parlez avec lui comme d'un copain.
Ah, c'était pas un copain, mais c'était mon patron, et mon patron avait compris qu'avec mon énergie et ma folie, on allait avoir des Oscars du meilleur spectacle. Alors je disais, Gilbert, là j'ai Stan Getz qui est là. J'avais 19 ans, j'appelais Stan Getz à New York. Hi Stan, it's Mark, a very good friend of Bernard Pollack. Are you coming? Donc deux jours après, Stan Getz arrivait avec ses musiciens.
Incroyable.
Et je leur disais, East in the morning, on the shower. Et, et à 8h du matin, les GM se levaient et ils avaient Stan Getz qui jouait pour eux sous les douches. Et le soir, je disais, allez, 400 bouteilles de champagne.
Oui, ce qui paraîtrait aujourd'hui, effectivement, vous dites, ce serait 10 bouteilles peut-être.
Mais... Et ok, Gilbert disait, allez, ok, on y va, en avant. C'était génial.
Si je voulais vous titiller, tiens, le Club Med, c'est un peu l'industrie touristique avant l'heure, vous, pour vous qui êtes un militant écologiste.
Alors, Benoît, je ne suis pas un militant. N'employez plus jamais ce mot devant moi. Et deuxièmement, à l'époque, Ça n'était pas ça, ah oui. Justement. Dans les années 70, uh-huh. le club était vraiment l'endroit, le brassage le plus extraordinaire, uh-huh. où le PDG de Renault n'avait plus d'argent, il avait des boules là, des boules et il était avec l'ouvrier, et ça, tout le monde se tutoyait, ouais. et les artistes venaient là, on venait tous dans cet endroit où on pouvait s'exprimer. J'avais chaque soir entre 400 et 800 personnes de gens qui pouvaient m'écouter.
C'est extraordinaire.
Quand je faisais une chanson, voilà, c'était génial.
Voilà. Et donc, un petit peu après, c'est formé vraiment dans le monde du spectacle le duo de Pierre et de Marc Jolivet, avec très rapidement un succès qui, on peut le dire, vous a lancé.
Il a des petits frères à Moscou, au Chili et un peu partout. On l'a trouvé dans un nid d'aigle, mais il évolue dans la pègre.
Le fils d'Hitler, Chimiri Papa, n'a pas connu sa mère. Chimiri Papa, mais ressemble à son père. Chimiri Papa, il a son mauvais caractère. Le fils d'Hitler, Chimiri Papa, grandit dans un bunker. Chimiri Papa, fouetté par sa grand-mère. Chimiri Papa,
sans jamais pouvoir prendre l'air. Déguisé en politicien, mais on le traite de bon à rien. Alors il se met en fureur et rejoue les envahisseurs.
Le fils d'Hitler, Chimiri Papa, n'a pas connu sa mère. Chimiri Papa, mais ressemble à son père. Chimiri Papa, il a son mauvais caractère. Le fils d'Hitler, Chimiri Papa, quand on privait des serres. Chimiri Papa, bout de son revolver. Chimiri Papa,
de rage avalé sa croix de fer.
Je veux changer d'état civil. Je veux m'appeler Churchill.
Avec sa mèche un peu rebelle, on le prend pour un homosexuel.
Alors il finit par se piquer,
pour que tout le monde le croie gamé.
Le fils d'Hitler, Chimiri Papa, n'a pas connu sa mère. Chimiri Papa, mais ressemble à son père. Chimiri Papa, il a son mauvais caractère. Le fils d'Hitler, Chimiri Papa, pour son anniversaire. Chimiri Papa, sa tante lui a offert.
Le fils d'Hitler, 1975, Pierre et Marc Jolivet. Alors, le paradoxe d'ailleurs, Marc Jolivet, c'est que vous nous avez dit et redit que vous n'étiez pas musicien ou doué pour la musique, mais c'est une chanson qui finalement lance le duo, hein, le succès d'une chanson.
Cette chanson a été le début pour Pierre et moi de notre carrière qui continue aujourd'hui. Et là où c'est amusant, c'est que Michel Héron nous avait donné, on fait un album de chansons, voilà, avec Pierre Cher, RCA, Bob Soquet, et il manque une chanson. Et je dis, bon, bah écoutez les gars, j'essaye dans la nuit. Et la musique, la mélodie de Michel Héron faisait « Vivre avec toi, chibidi papa, c'est mon unique loi, chibidi papa ». Oui, mais je ne pourrais pas. Là, moi, il est 2h du matin, qu'est-ce que je pourrais inventer ? Le fils d'Hitler, chibidi papa, n'a pas connu sa mère, mais ressemble à son père. J'écris, voilà, et le lendemain, tout le monde me dit, mais c'est débile ce que tu as fait. Je dis, oui, enfin voilà. Bon, eh ben faisons ça. Boum ! Le seul succès de ma vie et de notre vie.
Non, non, vous exagérez.
Enfin, discographique.
Discographique, voilà. Donc ça lance le duo et le duo, donc là, commence à enchaîner les spectacles avec des succès divers.
Alors, première partie de Marcel Hamon avec Patrick Sébastien.
Notre cher Marcel qui nous écoute peut-être. Comme
c'est oui, bah absolument. Voilà. Oui, il faut qu'il écoute.
Mais justement, tiens, pour un autre de ces spectacles, tous les deux, vous étiez en première partie de Julien Clerc.
Oui, aussi. Alors, Bertrand de l'Abbé nous engage en première partie de Julien.
Quand je disais que vous aimiez bien faire des blagues, justement, vous en racontez alors, une que vous faites à Julien Clerc dans le livre qui est pas publié.
Julien nous invite à un grand restaurant près de Cannes, je ne sais plus, mais vraiment chef étoilé. Et je vais une heure avant ou une heure et demie avant et je lui dis, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner à tous le menu que va donner Julien. Mais pour Julien, vous lui en mettez moitié moins qu'il y a une toute petite assiette. Donc, le dîner commence et donc on sert tout le monde et Julien a vraiment une entrée. Lui, il a la moitié de l'entrée. Alors, il n'y a que mon frère et moi qui sommes au courant. On voit l'œil de Julien qui ne dit rien. La classe. Deuxième plat. Encore un peu moins que les autres. Julien ne dit rien.
Très élégant.
Très classe, très élégant. Cet homme a la classe et l'élégance. Et juste au dessert, quand le dessert, il a un minuscule dessert, il dit, excusez-moi, il n'est pas un peu petit, mon dessert? Et là, je dis, Julien, pardon, c'est un gag, ils lui ont tout rapporté. Voilà.
Voilà.
C'était une très belle histoire prouvant la classe de cet homme.
Exactement. Et on le retrouve avec d'autres, d'ailleurs, artistes importants qu'on aime tous, que vous avez connus jeunes de façon diverse. Par exemple, Alain Souchon également. Hein,
Alors, Alain est venu lorsque... On l'a connu avec Alain au moment du Fils d'Hitler. Il débutait chez RCA aussi.
Même maison de disques, voilà.
Donc on est copains légèrement. Et puis la disparition de Daniel Balavoine. Et là, Alain est présent.
Ouais,
Alain est présent. Et Alain, je le dis, a été toujours présent dans ma vie. Et il l'est d'autant plus que la femme avec laquelle je vis, eh bien, était la femme de son meilleur ami.
Voilà. Donc, voilà. On salue aussi, évidemment,
le papa d'Eugénie
notre cher Alain Souchon. Alors, il y a un autre document sonore qui, moi, m'a bien amusé. Dans la période Pierre et Marc Jolivet, donc, c'est-à-dire, en gros, les années 70, on va dire. Hein, voilà.
Oui.
Rappelons à ceux qui connaissent et apprenons à ceux qui ne connaissent pas qui étaient Réchaud et Frigo.
Alors, comme vous l'avez compris, Benoît, je suis venu sur Terre pour m'amuser, pour réaliser le maximum de mes rêves. Et le clown, devenir un clown,
voilà,
ça me plaisait. Donc je propose à mon frère Pierre, Réchaud et Frigo. Et alors là, deuxième succès, on est TF1, les clowns Réchaud et Frigo, et c'est un énorme succès. On crée des clowns avec une certaine image de l'écologie. Je commence mes premiers textes écolo. Il y aura toujours du soleil, le Père Noël écologiste, voilà, gros succès.
Salut, c'est moi Réchaud.
Salut, c'est moi Frigo.
Et tous les après-midi,
on retrouve nos amis.
Salut, c'est moi Réchaud.
Salut, c'est moi Frigo.
Quand il fait pas beau, quand il fait pas chaud, et qu'on a bobo, y'a Réchaud et Frigo.
Je suis né dans la cuisine d'un cirque de banlieue. Et pour voir ma bobine, tout le monde faisait la queue.
Je suis né un matin dans un grand magasin. J'avais même une petite sœur qui était congélateur.
On s'est rencontrés, on s'est aménagés. Et depuis ce jour, on ne sait plus quitter.
Salut, c'est moi Réchaud.
Salut, c'est moi Frigo.
Et tous les après-midi,
on retrouve nos amis.
Salut, c'est moi Réchaud.
Salut, c'est moi Frigo. Quand il fait pas beau, quand il fait pas chaud, et qu'on a bobo, y'a Réchaud et Frigo.
Réchaud pleure.
Frigori.
Les clowns pleurent.
Les clowneries. Ouais, maintenant petits amis, Frigo va pour vous jouer du saxophone.
Je suis tout boursouflé, tout essoufflé. Et maintenant, Réchaud va vous jouer du piano.
Maman, arrête, je sais pas.
Bon, alors il va vous jouer de la guitare.
Oh non, je sais pas non plus jouer de la guitare.
Alors de quoi tu sais jouer?
Je sais jouer à la bolotte.
Alors Réchaud va vous jouer un morceau de bolotte.
Bon, alors, tout à tout, sans atout, et puis c'est tout. Et voilà, je suis un petit clown de banlieue qui n'a pas froid aux yeux. Ne me marche pas sur les pieds, sinon je vais m'énerver.
Mais moi j'ai de la classe, je porte de belles godasses. J'aime bien les belles manières, mais j'aime aussi le Bruyère.
Oui, mais pour chanter, on y met du cœur. Et pour nous aider, reprenez en cœur.
Salut, c'est moi, Réchaud.
Salut, c'est moi, Frigo.
Et tous les après-midi,
on retrouve nos amis.
Salut, c'est moi, Réchaud.
Salut, c'est moi, Frigo. Quand il fait pas beau, quand il fait pas chaud, et qu'on a bobo, y'a Réchaud et Frigo.
Et Frigo.
Alors, précision pour les auditeurs, hein, la voix grave, c'est mon invité, Réchaud alias Marc Jolivet. La voix plus haut perché, c'est son frère, Pierre Jolivet, donc dans Réchaud et Frigo en 1978. Et certains s'en souviennent encore.
Certaines, même. Oui, on me le demande régulièrement, mais j'ai une belle histoire très simple. 15 ans plus tard, je passe la nuit avec une jeune fille et elle me regarde et elle me dit... Oh, je fais l'amour avec le clown de mon enfance.
Oh, comme c'est joli.
Elle m'a appelé Réchaud toute la nuit. Et j'ai trouvé ça adorable.
Ben écoutez, voilà. Moi, j'étais content de découvrir cette chanson. Le seul problème, Marc Jolivet, quand on forme un duo, même avec son frère, c'est que les duos, au bout d'un moment, il y a des tensions où chacun a envie de vivre sa vie. C'est ça qui s'est passé un petit peu. Hein.
C'est exactement ça.
Voilà.
Ben, ça s'est passé après le film produit par Claude Lelouch.
Ouais.
Claude Lelouch nous propose de réaliser un film. Il nous adjoint Claude Barrois. Donc c'est Pierre et Marc Jolivet et Claude Barrois. Dedans, on fait les premiers rôles pour Daniel Balavoine, Serge Lama, Marie-Paul Bell.
Qui étaient tous vos amis, hein, d'ailleurs.
Qui étaient nos amis,
absolument. D'entre eux, oui.
Et du coup, après ce film, là... On sent avec Pierre qu'il est temps de s'arrêter.
Voilà, c'est ça.
Il a envie de devenir Pierre Jolivet.
Il va devenir un grand cinéaste, on peut le dire.
Hein, voilà. On va rendre hommage à mon frère. Et moi, je vais devenir ce que je suis aujourd'hui, ce garçon un peu hétéroclite. Enfin,
hétéroclite, mais qui fait aussi, parallèlement à votre frère, d'une façon très différente, notamment du cinéma. Dans les années qui vont suivre.
J'ai fait du mémoire, ça a été un plantage absolument exceptionnel.
Oh, vous exagérez.
Non, pas du tout. Je suis un des plus petits succès du cinéma français, avec 700 entrées pour mon premier film, Diogène. Du coup, au lieu d'être en tête, je suis à la queue du peloton. Mais quand même, je suis pas au milieu, quoi.
N'empêche que vous avez eu l'œil, l'instinct, avec votre frère aussi, non seulement pour faire vos propres œuvres, mais pour dénicher des talents. Par exemple, il y a un tout jeune Luc Besson qui apparaît dans votre vie aussi dans ces années-là, qui est encore un gamin presque.
Alors, on a rencontré Luc au Club Méditerranée en 1976. Ouais. C'était son père, Claude Besson, qui nous avait invité. Enfin, Lydie Trigano, la famille Trigano, qui nous invitait. On rodait nos spectacles là-bas. Et il y a ce jeune homme, très sympa. On est au ski, on est à Val-Claret. Et on sympathise. Et 4 ans plus tard, « Salut Marc, c'est Luc, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis, je suis à Paris, je prépare un film, j'ai monté une société de production. Je peux venir t'aider ? Oui. Donc Luc vient vivre à la maison. Il y avait Richard Anconina qui vivait déjà là, chez Sylvie. Et donc on a un grand appartement et on commence avec Luc à réaliser des courts-métrages.
Voilà,
des trucs extraordinaires.
Vous les avez toujours, j'espère.
Absolument. Et Luc les a d'ailleurs rachetés quelques années plus tard pour me nourrir.
Ah,
quand
oui.
il est devenu une vedette, Luc a acheté les courts-métrages.
Oui, parce que la société, au bout du compte, nous a coûté quand même un peu d'argent. Hein.
Moi, oui. Eux, ils ont bien réussi, Pierre et Luc. Voilà, mais c'était des moments extraordinaires. On se levait le matin avec Luc, on se disait, et si on se faisait un court-métrage ? Ouais. Allez, d'accord. Ouais. Alors, on demandait à Claude Lelouch qui nous prête une caméra. On lui rapportait le soir. On avait l'idée, on en a un qui s'appelle « Une minute », je crois. Donc, c'est l'histoire d'un mec en une minute qui s'habille, qui se déshabille. C'est moi qui le joue. On l'a produit, écrit avec Luc. On en a fait 4 ou 5 comme ça.
Quelqu'un qu'on découvre très proche de vous aussi, Marc Jolivet, dans votre livre « Mémoire d'un artistocrate », c'est Daniel Balavoine. Hein. Un ami intime.
Ah oui, ouais. Moi, mon histoire avec Daniel a été une très très belle histoire. On s'est séparés avec Pierre. On l'a découvert à France Inter. Avec Pierre, on fait partie de ceux qui ont lancé Daniel avec son premier album Lady Marlène. Et on sympathise et on devient des amis. Après le film, on se sépare. Pierre fait du cinéma Et Daniel, me voyant vraiment, quand je me suis ruiné avec mes deux films, me dit « bah je t'engage, viens faire mes premières parties ». Et il le dit à son producteur, et l'autre lui dit « oh mais non, pas question ». Il dit « mais attends, j'engage Marc ». C'est comme ça.
C'est comme ça.
Et j'ai fait les premières parties de Daniel pendant quelques années. Je lui ai même fait un court-métrage aussi qu'on avait projeté au Palais des Sports où il y avait les pianos qui brûlaient. Daniel jouait sur des pianos dans les vagues et on avait mis le feu au piano. C'était magnifique. Je n'ai jamais récupéré ce film.
Et comme donc je le disais tout à l'heure, dans votre livre, tout est ponctué par des chansons. Alors il y a bien sûr justement Daniel Balavoine, mais il y a aussi, ça c'est pour vos années 2015-2016, je ne sais pas pourquoi c'est à cheval sur les deux ans, cette chanson de Francis Cabrel.
T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après y a tant de façons, de manières de dire les choses sans parler. Mais comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue, par le jeu des transparences, ces fruits dans les plis du tissu qui balance. S'agissait pas de monter bien haut, mais les pieds sur les premiers barreaux, j'ai senti glisser le manteau de l'enfance. On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends qu'un arbre est tombé, un arbre s'est vite fendu, le bois, quelqu'un a dû le vendre, s'il savait le mal que j'ai eu à descendre. D'ailleurs en suis-je descendu, de tous ces jeux de transparence, ces fruits dans les plis des tissus qui balancent. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. À la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n'efface l'essentiel. Tout s'envole en ombre légère, tout sauf ce goût de fièvre et de miel. S'est envolé dans l'espace, le sourire, la robe, l'arbre et l'échelle. À la vitesse où le temps passe, rien n'efface l'essentiel. D'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. Et voilà que du sol où nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel.
La robe et l'échelle de Francis Cabrel. Très jolie chanson, hein. Merci de l'avoir proposée, Marc Jolivet.
J'adore cette chanson qui, pour moi, est le summum de la délicatesse.
Oui, c'est ça. Oui. Et puis, c'est tellement bien
fait
musicalement.
Elle me procure une émotion. Merci Francis.
Et alors, donc, Marc Jolivet, bon, on a évoqué cet éloignement après de vos chemins avec votre frère Pierre. Donc, vous avez monté vos spectacles solo, ça a été l'étape suivante, même si ça a été aussi marqué par des périodes de creux, notamment dans les années 80, ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez commencé quand même à enchaîner vos propres shows, si on peut dire.
Oui, oui. J'ai compris que ce que j'aimais le plus au monde, c'était raconter des histoires, soit en les chantant, soit en les jouant, et en faisant rire les gens.
Voilà, c'est ça.
C'était ce que je préférais. Et donc, ben, j'étais ruiné, donc il a fallu payer les dettes de mes films, et j'allais dans les boulangeries, je jouais avec mon ami Guy Laporte, que je salue, qui est au ciel, qui était un homme absolument merveilleux.
Et prêt. Vous jouiez dans les boulangeries?
Oui, j'ai joué dans les boulangeries. C'était une période formidable, parce qu'il y avait mon ami Guy Laporte.
Aussi. Mais il y a eu aussi, évidemment, dans cette période, et peu à peu, souvent, des lieux plus importants, notamment, je pense, au Café Théâtre et au Café de la Gare de Romain Bouteille, par exemple.
Ça a commencé au Café de la Gare. Voilà. Dans, je crois que c'est 87, il commençait à y avoir du monde.
Voilà.
Ça bouge.
Ça bouge.
Mais des lires commencent. Et j'invite Éric Métayer, qui vient de faire l'Européen. Il y a Guy Laporte, il y a Christophe de Barlon, la rencontre avec Christophe. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de one-man show. J'ai toujours eu un partenaire de scène.
Toujours.
Toujours. Oui, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est tellement plus joyeux d'être à deux. Je me souviens d'Alex Métayer avec qui je parlais. Je dis, mais comment tu fais, Alex, pour être tout seul, rentrer hein? Moi, je peux pas, ça. C'est la fête.
Il y a une autre chose qu'on remarque dans votre livre, Marc Jolivet, c'est que vous pouvez pas non plus vous forcer. Quand quelque chose vous déplaît ou quand vous avez la tête ailleurs, vous pouvez pas vous forcer à faire mécaniquement le métier. Par exemple, vous racontez au Café de la Gare un soir où carrément, vous quittez la scène parce que vous êtes amoureux.
Oui.
Romain Bouteille ne le prend pas très bien. Quand même.
Ah oui. Donc, je crois que c'est 87, 80, je ne sais plus exactement. Ouais. Donc, le succès au Café à la Gare est là. C'est complet. Ouais. Et je suis amoureux de cette fameuse Sylvie. Je sais qu'un homme va la retrouver dans le sud de la France. Et je monte sur scène et je dis, voilà, je suis désolé, c'est samedi soir, je suis obligé de partir. Je ne peux pas jouer. Alors les gens se marrent, pensant que c'est faux. On vous rembourse, je reviendrai, je vais retrouver mon amoureuse, c'est important. Et je quitte la scène. Et Romain, mais qu'est-ce que tu fais, merde? Ben, je dis, je m'en vais, c'est le Café de la Gare. Mais jamais ils ont fait ça! Ni Depardieu, ni les autres, on n'a jamais fait ça. Je dis, écoute, on ne paye pas les gens, je m'en vais. Et là où l'histoire est extraordinaire, 4 ans plus tard, je ne sais jamais, il faudra que je demande à Daniel Auteuil s'il m'avait vu, je n'ai pas le souvenir exact, s'il m'a vu ou si on lui a raconté. Jean-Marie Rouzière m'appelle, Daniel Auteuil n'a pas encore eu son César, mais il est dans la pièce, j'ai plus le titre de la pièce, il fait un succès phénoménal, et on me dit, viens voir la pièce, Jean-Marie Rouzière, viens mon chéri, faut que tu viennes, c'est important. Donc je vais voir la pièce, c'est un boulevard qui marche très bien. Et Daniel, effectivement, on ne l'entend pas toujours très bien, c'est un peu complexe. Bon, c'est bizarre, la pièce est très bien. Je repars, et sur la route, Daniel sort et me dit, Marc, tu es le seul à pouvoir me comprendre. Je dis, de quoi? Il y a quelques années, tu as quitté la scène parce que tu étais amoureux. Emmanuel Béard est en ce moment aux États-Unis. Il faut que je parte le plus vite possible.
Je peux pas jouer.
Il n'y a que toi qui peux me comprendre, car toi, tu l'as fait. 4 jours plus tard, je remplaçais Daniel Auteuil au théâtre.
Jolie aventure. Et donc, en tout cas, au fil de ces années, café-théâtre, spectacle, pas one-man show, comme vous venez de nous le dire, mais spectacle quand même plein de sketchs, vous continuez aussi à enregistrer beaucoup de chansons, et notamment celle-ci, par exemple, Le Réveil musculaire, vous voulez bien qu'on l'écoute?
Oh, mais avec plaisir.
Ça date de 1988.
Tous les matins, j'entends du bruit dans l'escalier. Celui qui tousse, c'est mon voisin.
Le militaire.
Alors qu'on est si bien au creux d'un oreiller. Ils s'en vont tous faire des cocottes au ministère. Craque les pas, craque les murs. C'est le réveil de la nature. C'est le moment que je préfère. C'est l'heure du réveil musculaire. Remonter les draps jusqu'au menton en évitant les courants d'air. C'est ça. Passer le bras sous le polochon, tourner le dos à la lumière, comme ça. Allonger les jambes, aller toucher du bout du pied le fond du lit. Ça suffit comme ça, n'exagérons pas. L'important c'est de faire mieux la prochaine fois. Tous les matins, c'est le concert dans les tuyaux. Quand les gens l'ont, du lavabo, du militaire. Je donnerais toutes les radios, tous les tuyaux pour être seul avec mon lit dans un désert. Café au lait, café au lit, quand j'ai fini, tout de suite après avoir posé ma petite cuillère, j'attaque le réveil musculaire. Remonter les draps jusqu'au menton en évitant les courants d'air, c'est ça. Passer le bras sous le polochon, tourner le dos à la lumière, comme ça. Allonger les jambes, aller toucher du bout du pied le fond du lit. Ça suffit comme ça, n'exagérons pas. L'important c'est de faire mieux la prochaine fois.
Tous les matins j'entends mon voisin musicien et ses copains qui jouent en chœur tout en douceur. C'est une musique qui vous réveille pour la journée et vous permet de démarrer de bonne humeur. Ça vous excite, ça prend aux tripes et dans la joie et sur les nerfs. Comme je suis là, que je peux rien faire, j'attaque le réveil musculaire. Remontez les draps jusqu'au menton en écoutant les courants d'air.
C'est ça.
Passez la bras sous le polochon, tournez le dos à la lumière.
Comme ça.
Allongez les jambes, allez toucher du bout du pied le fond du lit.
Quand l'été viendra, devant les nanas, j'aurai des épaules et des biceps comme ça.
Le réveil musculaire, Marc Jolivet, en 1988, vous la chantez toujours.
Hein, je la chante toujours, oui, oui. En scène, oui, j'aime.
Voilà, et vous en parlez dans votre joli livre de souvenirs, mémoires d'un artistocrate. Alors justement,
écrit, bah... alors je le dis, hein, à quatre mains, avec Julie Guinard, mon amoureuse,
voilà,
qui est traductrice, et si c'est bien écrit...
C'est très plaisant à lire, je le dis aux auditeurs. C'est pas si fréquent dans les autobiographies d'artistes, je l'avoue. Mais là, voilà, on se laisse porter. C'est très fluide, très rythmé, très très
merci
plaisant.
Merci beaucoup.
Et donc, Marc Jolivet, oui, bah là, on était en 88. Et justement, en 89, vous entrez en politique comme candidat à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Vous frôlez d'entrer au conseil. Vous avez 11,80% des voix, 89%. Et vous allez devenir quand même, jusqu'à aujourd'hui... un compagnon de route, je sais pas comment dire, un peu compliqué des Verts, parce que vous les aimez, vous partagez leurs idées,
non,
mais en même temps, c'est compliqué.
Pas, je ne les ai jamais aimés. Là, soyons très clairs, alors, ne perdons pas de temps avec ça. Depuis le début, je, toujours, 1989, c'est un défaut ou une qualité. J'ai toujours envie, je me dis, moi, en tant qu'artiste, c'est pas important. Ce qui est important, c'est cette planète qui est merveilleuse de l'aider. Donc, je vais chez les Verts, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et là, ils me disent, bah, tu vas te présenter face à Chirac dans le 5e arrondissement. Et c'était donc...
Jean Tibéri.
C'était
voilà.
Jean Tibéri et sa femme. OK. Et là, je dis, eh bien, j'arrête mon métier pendant 6 mois. C'est facile pour les clowns, pour les humoristes de critiquer, de se moquer. Je vais avoir le nez dedans. Je vais savoir ce que c'est que vraiment faire un acte politique. Donc, je ne prends pas ma carte de chez les Verts. Et donc, pendant 6 mois, je fais ça. Soir des élections, Claude Sérillon annonce la surprise de la soirée. Marc Jolivet élu dans le 5e arrondissement de Paris avec 12% des voix. Il faut savoir que Brice Lalonde, la dernière fois, avait fait 5 ou 6%.
Ah voilà.
Alors là, je dis, waouh, fonce à la mairie, tu es élu, tu es élu. On fonce à la mairie, on arrive, on rentre dans la mairie et des mastards du RPR nous disent, on rentre pas dans la mairie. Oh, on va les porter plainte. Alors on fonce au commissariat qui nous disent, excusez-nous, monsieur Jolivet, vos gars, par ce soir, quoi, on a du boulot, on travaille. Alors on remonte, on ne peut pas porter plainte, on remonte à nouveau devant la mairie, la porte est ouverte, et on rentre, et Jean Tibéri annonce, Marc Jolivet, 11,89,
ah,
non élu,
chance.
Menteur, etc. Poum, un pain dans la gueule, et je suis jeté dehors.
Voilà, mais alors, vos relations avec les Verts, vous nous disiez... C'est pas facile.
C'est un carteron de stalinien. Voilà, soyons très clairs. Mon souvenir est très clair. C'était, j'ai fait le meilleur score sur la France au premier tour. Quand je suis arrivé chez les Verts, ils m'ont fait la gueule.
Ah oui.
Ils m'ont fait la gueule. Jacques Séguéla m'avait offert les affiches. Alors j'étais un vendu, un traître, n'importe quoi. Donc je ne me suis jamais inscrit chez les Verts, mais j'ai toujours aider tant que faire se peut les écolos, les gens amoureux de leur planète.
Et vous dites d'ailleurs, rire, c'est bon pour la planète.
J'ai monté une association avec le président d'honneur, Luc Besson, Liane Folly, Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot, qui sont mes soutiens. Et, alors je vous le dis, ouais. Cette association va renaître. Aujourd'hui, Rire pour la planète, on est en train de travailler pour retravailler avec les enfants. Le but de ça, c'est dire, c'est les enfants qui vont trouver les solutions.
Ouais.
Et ça passe par le rire. Rire, c'est bon pour la santé. Si c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète.
Voilà.
On n'est plus apte à résoudre les problèmes.
Parmi vos compagnons ou ceux que vous croisez et qui vous aiment au fil de ces années, il y a notre regretté Guy Bedos qui est présent dans ce livre.
Oui, tout à fait. Mais, comment dire, c'était une relation complexe.
Oui,
moi, je me
sens.
Suis toujours foutu de la gueule de Guy.
Ouais.
Vous voulez que je vous raconte notre première rencontre? Guy Bedos devient un énorme, on est 88, je crois, énorme. Il est une vedette, il est une star. Et je le vois, et je dis, le mec est très fort, il me fait rire, il fait l'actualité. Mais, régulièrement, il dit... Je n'aime pas qu'on se moque de moi, j'aime me moquer des autres. Oh, je dis, ben là, j'ai bien entendu, et sur scène, je me fous de sa gueule. Je l'imite, je dis, alors, un journaliste vient vers moi, et me dit, monsieur Bedos, vous habitez Neuilly, vous dites que vous êtes de gauche. Je lui ai répondu, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on doit vivre avec les pauvres. Bon, j'en fais plus. Quelques mois plus tard, ça marche, téléphone, allô, c'est Guy. Guy Bedos, je l'y vais. Pourquoi tu te moques de moi? Moi, je dis que tu es un de mes successeurs. Alors, je dis, Guy, rencontrons-nous. Donc, je rencontre Guy, on boit un verre dans un café. Et je lui dis, moi, voilà, Guy, je me moque que des puissants, que des meilleurs. Ah, il m'en a, ça y est, comment là? J'ai dit, oui, un exemple. Charlie Chaplin serait vivant, je me moquerais de lui. Et là, il sourit, il me regarde, il me fait... Continue.
Évidemment, c'était mieux comme ça. Et puisqu'on a parlé de la planète, Marc Jolivet, tiens, allons donc prendre un petit peu l'air de la mer.
Je joue du mégaphone.
Approchez, approchez, approchez. Allez, on danse et on danse.
Voilà, ça c'est Comique Symphonique, le grand succès qui continue, Marc Jolivet. Mais qui évolue, j'imagine, aussi, depuis l'origine, maintenant, il y a beaucoup d'années. Hein,
que
vous avez expliqué tout à l'heure, ça avait commencé par l'Utopitre. Et donc, le spectacle est en renouvellement permanent.
Absolument, il y a une base. Et avec Philippe Fournier, le chef d'orchestre de la base, on fait une chose que personne ne fait sur la planète. On prend l'actualité et on la décline en fonction. On a 10-15 morceaux.
Voilà.
En fonction, si c'est Marine Le Pen, ça sera Vivaldi. Donc, tout en décalé, comme ça. Et les gens sont très surpris.
Et puis alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez toujours un partenaire sur scène. Hein. On en découvre de plus inattendu dans ce livre, comme par exemple Gérard Miller, hein, avec qui vous adore.
On a été très amis.
Voilà, qui parlait de vos spectacles dans son enseignement même, et qui vous a rejoint pendant un certain temps sur scène. Et puis également, alors c'est plus récent et ça continue, le patron de l'Express, Christophe Barbier.
Absolument.
Et qui est un amoureux du théâtre, on le sait.
Ah oui, ouais. C'est une belle histoire, ça. Parce qu'il y a 10 ans, donc, je me lève et je dis après un orchestre symphonique, qu'est-ce que je peux faire de rigolo ? Ah, je dis, tiens, j'ai envie de travailler avec Christophe Barbier.
Ouais.
Ah bon ? Dit mon équipe. Je dis, appelez-le, appelez l'Express, dites Marc Jolivet, voudrait vous rencontrer. 48 heures se passent, pas de réponse. Je sors de la salle Gaveau, où j'ai joué pendant 10 ans, que j'adore. Et d'une mise en scène, j'ai fait une belle mise en scène pour Olympe de Gouges, Standing Ovation. Je sors respirer, Christophe Barbier vient vers moi dans la rue. Oh, je dis Christophe, pourrait-on se voir ? Bonjour Marc, comment tu vas ? Bah bien, on se connaît. Bah oui, nos deux enfants étaient dans la même école il y a 10 ans avant. Je ne le savais pas. Et 2 jours après, on déjeune et Christophe dit bon, ça te dirait un spectacle ? Et donc avec Christophe, on s'entend vraiment bien. Cet homme est formidable. On écrit un livre tous les deux, chez Flammarion, Rêvons, et on en fait un spectacle.
Et voilà, et on en trouve d'ailleurs quelques extraits sur votre site, hein, Marc Jolivet, qui est oui. plein de documents passionnants. Voici donc en duo avec Christophe Barbier.
L'Express se vend très bien.
Ah bon ? Alors dans ce cas-là, pourquoi, quand on s'abonne, on gagne un réveil phosphorescent ?
Tu as osé leur dire que je couchais avec Marine Le Pen ?
Non, 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 non. J'ai dit, si ça se trouve, eh ben ça se trouve pas. Voilà.
Et avec Mélenchon ?
Ça, c'est plus crédible. Là, je pense... Non, non, c'est eux qui m'ont dit, peut-être que ça leur...
Moi, c'est... Ah oui, c'est... Non. Ah, ça te ferait rire si j'allais leur dire que Marc Jolivet couche avec Nadine Morano ?
Comment tu le sais ? Mais comment tu le sais ? C'est elle qui te l'a dit.
Non, rajoute pas. T'as pas honte, Marc, de venir faire le souffreteux sur scène avec tes bronchites asthmatiques pour apitoyer le public qui te donne plus d'argent ?
Ah non, non, Christophe, c'est vrai, j'ai vraiment des bronchites asthmatiformes, regarde.
Mais tu exagères, ça se voit.
Mais tous les humoristes exagèrent, bien sûr. Jamel Debbouze, quand il sort de scène, il remet sa main.
Che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io solo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio cielo, tu sei qui con me, con me.
Voilà, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, Marc Jolivet.
Mais
ça,
je reviens le week-end prochain, pas de problème.
Ça m'a amusé. En tout cas, vous aimiez Bocelli qu'on entend là. Hein, c'est vrai. Vous avez des goûts très éclectiques en musique.
Oui.
La chanson française, l'opéra à la Bocelli.
Et oui. Ma plus grande émotion sur scène, c'est d'être sur scène avec Ruggiero Raimondi Salgavo. Je me moque de lui. Il monte, il chante à mes côtés.
Ah oui, c'est pas
c'est
mal.
C'est le plus grand moment de scène de ma vie.
Voilà. Et ces moments de scène, bah, on les retrouve dans votre livre Marc Jolivet, Mémoire d'un artistocrate, avec, je l'ai dit, beaucoup de musique de toutes sortes. Tiens, d'ailleurs, on va se dire au revoir avec... Oh bah c'est très différent alors, Black Betty, là,
yeah on a...
le hard rock ça vous plaît aussi.
Ah
hein
oui, on va danser.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Marc Jolivet. C'est ainsi que Black Betty de Ram Jam fait son entrée sur France Musique grâce à mon invité Marc Jolivet. Vous savez, c'est un chant de travail américain du début du XXe siècle qui a été repris donc en version rock très célèbre en 1977. Marc Jolivet donc était là ce matin pour ses mémoires d'un artistocrate qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Il sera aussi à Sanary le 4 novembre avec l'Orchestre Symphonique de Provence et puis il sera aux Folies Bergères à Paris au mois de juin pour toute une série de spectacles. Voilà l'invité que j'avais le plaisir de recevoir donc ce matin.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et maintenant, c'est l'heure de la musique légère. J'avais entendu ces soupirs, avec les musiciens qui reprennent encore, parce que ça s'appelle justement le galop des soupirs, Softer Galop de Johann Strausberg, au concert du Nouvel An de 1991 sous la direction de Claudio Abbado. Aujourd'hui, je vous propose mes choix de musique viennoise, et c'était normal de commencer par le grand fondateur que fut Johann Strausberg, mais passons tout de suite à ce merveilleux musicien qui était son fils, Johann Strauss, fils qui a écrit des opérettes encore célèbres, comme La Chauve-souris, Le Baron de Cigane, ou encore Une nuit à Venise. On écoute ce quatuor des pigeons de Saint-Marc avec notamment Elisabeth Schwarzkopf et Nicolas Guéda.
Mit Briefen durch das Land zu Liebesbotschaft sind. spirita gern zur Hand.
Drum wart euch als Belohnung hier Wohnung und Schonung für immer zu. Merkat, für immer zu. Merkat.
Ein gutes Beispiel geben will für jedes Liebespaar. In Eintracht leben wir und schnäbeln immer da.
O süßer Schnäbelei, wie gern bin ich dabei. Drum reicht mir eure Schnäbel alle
Quelle petite merveille, ce quatuor, Elisabeth Schwarzkopf, Nicolas Guéda, Émile Louz, Eric Kuntz, sous la direction d'Otto Ackermann, c'était en 1954, on peut dire l'enregistrement de référence d'une nuit à Venise de Johann Strauss fils, par ailleurs compositeur de toutes les valses que vous connaissez, mais puisqu'on ne saurait parler de musique viennoise sans écouter une grande valse, j'ai choisi plutôt un compositeur un peu moins connu, Karel Komjak fils, qui était d'ailleurs au programme du dernier concert du Nouvel An, avec cette très belle grande valse intitulée « Les filles de Bade ».
Thank you.
Les filles de Bad Grandvals de Karel Komzak fils, joué au concert du Nouvel An 2021 sous la direction de Riccardo Muti. Et puis nous allons passer donc maintenant à la plus célèbre de toutes les opérettes viennoises et peut-être, je crois d'ailleurs, même la plus jouée de toutes les opérettes dans le monde, La Veuve Joyeuse, créée en 1905 à Vienne, mais qui a connu aussi une très très grande carrière française à partir de sa création à l'Apollo à Paris en 1909, dans une version de Caillavé et Robert de Flers, d'après d'ailleurs le livret original qui lui-même était inspiré d'Henri Meillac. Alors on va écouter cette version française, un très beau duo chanté par Louis Arnoux avec sa partenaire Hélène Régélie, qui est par ailleurs, je vous le signale, l'arrière-grand-mère du jeune et brillant pianiste Ismaël Marc.
Oh Nadia, me refuserez-vous même un baiser d'adieu?
Un baiser? Vous voulez me perdre?
Je vous en prie,
Alors, pas ici.
Viens dans ce joli pavillon, il paraît très indulgent. De voir, de ne rien dire et de ne rien voir. Il sera propice, accueillant et complice. Viens, la porte ouverte nous jamais rien. Viens, viens, il sera propice, accueillant les complices.
Viens, c'est la porte ouverte de nos invités, elle a l'air de
Hélène Régély et Louis Arnoux dans La Veuve Joyeuse, c'était en 1931. Mais si vous préférez l'opérette viennoise dans le texte, en allemand original, alors on va écouter maintenant l'autre grand compositeur qui a été sans doute le plus joué après Franz Lehár dans la première moitié du XXe siècle, Emmerich Kallmann. Ça a commencé un peu plus tard pour lui en France parce que ses premières œuvres avaient été créées pendant la Première Guerre mondiale, mais on a commencé à les donner beaucoup à partir des années 30, notamment La Princesse Xardas ou encore La Comtesse Maritza. On va entendre tout de suite ce chef-d'œuvre, La Comtesse Maritza, avec deux très très grands chanteurs, Nikolai Gedda et Anneliese Rothenberger.
Stolzes Herz in Leben.
immer schwarz, zieh an dein schönstes Kleid. So gegen 10, mein Liebchen, sei bereit. Ich warte auf dich im Dunkel vor dem Tor. Heut hab ich mit dir was besorgt.
Schritt und bringt ein ganzes Herz voll Liebe mit.
Nun frag nicht, mein Liebchen, wohin ich dich führ. Mach deine Augen nur fest zu und komm.
Nicolas Guéda, Annelise Rottenberger dans ce merveilleux duo de la comtesse Maritza sous la direction de Willy Mattès, une musique d'Heinrich Kallmann, qui d'ailleurs après s'être exilé aux États-Unis pendant la guerre a fini sa vie en France. Il était très francophile et c'est à Paris qu'il est mort en 1953. Merci, merci, n'en jetez plus. C'était donc avec Chic, Mit Chic, une petite polka rapide de l'excellent Eduard Strauss par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Zubin Mehta. Ainsi se refermait le petit divertissement viennois que j'avais le plaisir de vous proposer ce matin. Étonnez-moi Benoît, c'est donc terminé pour aujourd'hui cette émission préparée par Annie Comier avec aujourd'hui la technique Emmanuel Morse-Duncan et Dalia Aha, réalisation Christine Amadou. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain, j'aurai la joie d'accueillir Gérard Davoust, grand éditeur de musique et notamment de chansons.
À réécouter sur francemusique.fr.